Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Si demain, vous réattaquez une bobonne, c'est ma tête, on verra dans la presse en disant « Cette canasse a libéré un type dangereux ».
Un rapide aperçu sonore du documentaire « Ni juge ni soumise », un reportage sur la juge belge Anne Gruet que l'on doit au réalisateur de la célèbre émission belge Striptease. Un mois après sa sortie et à l'occasion de cette journée internationale des femmes, notre correspondante en Belgique, Lakshmi Lotha, est allée voir comment la désormais célèbre et truculente juge d'instruction vit cette soudaine mise en lumière.
Pourquoi voulez-vous que ça change, les prévenus? Ils n'en ont rien à faire, que le juge passe à l'écran ou pas.
Anne Gruet assure que ni sa vie ni son travail n'ont changé depuis la sortie de Ni juge ni soumise. Alors comment vivez-vous votre célébrité?
En me levant chaque matin, en me couchant chaque soir et en mangeant à des heures régulières. Donc jusque-là, il n'y a pas de difficulté, mais je n'ai pas une impression de célébrité particulière. Il ne faut pas déranger la célébrité pour ça, hein.
Pourtant, ce soir, paupières joliment argentées, elle se rend à Mons pour présenter en avant-première le documentaire avec Yves Inan, l'un des réalisateurs. La juge d'instruction se prête également aux photos, interviews et elle a pu participer à des festivals.
Ah, c'est quelque chose qui est tout à fait plaisant, c'est rigolo, ça change. Vous savez, moi je suis dans les dossiers, je suis dans les auditions des gens, etc.
Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Dans Ni juge ni soumise, Anne Gruet apparaît directe, franche, humaine, parfois déroutante pour des prévenus qui ne s'attendaient pas à une telle personnalité.
Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration, je le fais immédiatement.
Mais non, je ne peux pas.
Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer, ensuite vous plaquer au sol.
Mais est-ce que les prévenus la regardent différemment aujourd'hui?
Effectivement, ce matin, il y en avait un qui me disait « Eh bien, madame, pour vous remercier, je vais aller voir votre documentaire. » Ah, je dis « Merci, monsieur, ça crée un lien. » Et donc ça, j'aime bien de créer un lien avec les gens parce que j'ai besoin des gens pour vivre. Donc j'aime créer ce lien.
Dans le bureau d'Anne Gruet se succèdent voleurs, harceleurs, meurtriers présumés. Les protagonistes ont tous signé un document où ils acceptent que leur image, leur histoire soit utilisée pour le film. Dans le bureau, la caméra, le preneur de son semble ne pas être là. Yves Inan, l'un des réalisateurs.
Je crois qu'il faut absolument assumer la présence d'une caméra et du son. Moi, je suis absolument contre une caméra cachée ou une caméra tout à fait dissimulée. Donc, c'était vraiment... On a tourné avec un caméraman et un preneur de son dans le bureau et c'était avec une prise de son directe et avec une présence tout à fait affirmée. Et madame la juge, elle doit prendre une décision. Soit elle place en détention, soit elle libère. Et les personnes qui passent devant elle doivent expliquer ou tenter d'éviter d'aller en prison. Donc, il y a quand même un enjeu assez fort et donc la présence de la caméra forcément s'oublie.
Exhumation d'un corps, visite d'une scène de crime, des archives avec les pièces à conviction, les auteurs du documentaire ont pu se rendre dans des lieux habituellement interdits au public. Ils ont suivi la juge pendant 3 ans et ont pu assister à des scènes surréalistes ou glaçantes, comme celle où une femme explique froidement pourquoi et comment elle a tué son fils de 8 ans parce qu'elle pensait qu'il était le fils de Satan. Mais les réalisateurs n'ont retenu que des prévenus d'origine étrangère au montage. Pour quelle raison, Yves Inan?
Parce que c'est la réalité, en fait. Ce sont tous des Belges qui passent dans le bureau de madame la juge. Voilà, c'est un espèce de regard relativement réaliste.
Il se trouve que ce ne sont que des personnes d'origine étrangère belge, mais d'origine étrangère.
Je suis foncièrement, comme réalisateur, l'objectivité, ça n'existe pas. Je suis subjectif, il y a un choix. Avec Jean, on a choisi des séquences, mais je pense que c'est tout à fait honnête par rapport à la réalité qu'on a rencontrée.
Anne Gruet est satisfaite du résultat. Le documentaire reflète bien sa réalité de juge, dit-elle. Certains magistrats qui ont souhaité garder l'anonymat reprochent pourtant à leurs consœurs d'avoir manqué de discrétion. Selon eux, une juge d'instruction doit rester dans son rôle et travailler à l'abri des micros. Anne Gruet leur conseille d'aller voir le film.
Ah oui, mais enfin, les témoignages anonymes lancés par des magistrats, excusez-moi, mais je vais dire simplement, est-ce que ça leur arrive souvent de faire un jugement rendu de manière anonyme sans avoir lu le dossier? Moi, je veux bien. Alors, on ne dit pas qu'on est magistrat.
Vous vous assumez totalement.
J'assume toujours ce que je fais. toujours, c'est un principe.
Si vous vous écartez, si vous me trahissez, alors je peux vous jurer que la prison, c'est rien à côté de moi.
En Espagne, la journée internationale des droits des femmes ne passe pas inaperçue. Train et métro à l'arrêt, stars de la radio et de la télé absentes. Dans toutes les villes, les femmes sont appelées à cesser le travail et à faire grève de quelques heures ou toute la journée pour revendiquer leurs droits. Et cela à l'appel de nombreuses associations et mouvements féministes. Des marches sont organisées dans 64 villes avec des mots d'ordre bien précis, Laetitia Farine.
Les différents mouvements féministes à l'origine de cette grève du 8 mars ont signé un manifeste qui met en avant plusieurs revendications importantes, notamment économiques. Les associations et les syndicats demandent la fin de la discrimination au travail, de la précarité et des écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes. Le mouvement met en avant le manque de reconnaissance du travail invisible que font les femmes dans les foyers, où ce sont elles qui s'occupent majoritairement des jeunes enfants et des personnes âgées. Autre point important du manifeste, la fin de la violence machiste. En effet, le nombre de femmes assassinées par leurs conjoints est passé de 44 en 2016 à 49 en 2017. De plus, près de 150 000 femmes ont été victimes de violences machistes en 2017. C'est près de 12% de plus que l'année antérieure, selon l'Observatoire espagnol contre la violence domestique et la violence de genre. Pourtant, par rapport à la France, où le secrétariat à l'égalité a subi une coupe budgétaire de 7,5 millions d'euros en 2017, l'Espagne a une longueur d'avance. En effet, à l'été 2017, un fonds d'€1 milliard sur 5 ans a été débloqué et 200 mesures ont été retenues par le gouvernement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Mais pour les associations féministes, les mesures doivent être prises plus rapidement pour enrayer une situation qui ne cesse de s'aggraver.
Déception en Serbie pour le mouvement citoyen qui se présentait aux dernières municipales de Belgrade. Davimo Beograd n'a recueilli que 3,5% des voix. Ses membres ne siégeront donc pas à l'assemblée municipale. C'est le parti progressiste de Serbie du président Vučić qui a raflé la majorité absolue avec un record inédit de 45% des voix. Pas question pour autant pour le mouvement citoyen d'en rester là. Le reportage à Belgrade de Philippe Bertinchamp.
Dakle, počnimo. Jedva.
La gauche, l'écologie, l'autogestion. Leur nom, Nedavimo Beograd, homme aux valises qui conjugue ne cédons pas et ne noyons pas Belgrade. Leur mascotte, un canard géant. En serbe, le mot canard s'emploie aussi pour désigner la fraude et l'arnaque. Le mouvement est né en 2014 en organisant la résistance des citoyens à un projet urbanistique pharaonique et financièrement obscur de la capitale serbe, Belgrade Waterfront. 4 ans plus tard, après une multitude de manifs, de happenings et d'actions sociales, le mouvement s'est mué en parti politique. Si l'idée avait commencé à germer dans les esprits dès les débuts, dimanche 4 mars, la liste 12, Jedan 2, 1, 2, a connu le baptême du feu avec les élections municipales de Belgrade. Marko Aksentjević est l'un des animateurs de Nedavimo Beograd. Il rappelle les grandes lignes du programme.
Nous voulons utiliser de façon optimale les ressources à notre disposition. Il ne s'agit pas de faire des demandes de crédit pour construire un nouveau métro, mais bien d'améliorer les infrastructures existantes. On ne veut pas brûler les déchets, mais les transformer en autant de ressources. Nous voulons aussi réhabiliter les espaces à l'abandon pour en faire quelque chose d'utile dont la société a besoin. Enfin, il faut que tout le monde ait droit à un toit, puisse être payé pour son travail, soigné, puisse suivre des études et se déplacer en transport en commun d'un endroit à l'autre.
Sous des faux airs d'étudiants et d'étudiantes attardés, ces trentenaires ont de l'ambition. Pas vraiment révolutionnaires, plutôt partisans d'un sabotage constructif à long terme, ils et elles réclament plus de justice et moins de corruption, se réapproprier les institutions et les mettre au service des personnes et du bien commun. Tamara Petrovic-Trifunovic est chercheuse en sociologie de la culture politique à la faculté de philosophie de Belgrade.
Les points clés de l'initiative belgradoise, c'est qu'après de nombreuses années, ce sont les premiers à redonner du sens à la politique et à ne pas considérer que l'idéologie, c'est péjoratif. Ils ont une idéologie et un programme politique clair. Ces dernières années, eux-mêmes se sont positionnés à gauche de l'échiquier politique.
Ivan Milošević, 39 ans, est programmeur. Il habite en banlieue à Novi Beograd, dans les Blokovi, les blocs de tours de la ville nouvelle. L'an dernier, il a organisé une manifestation de quartier contre un projet de construction dans un espace vert. Il a reçu le soutien de Nedavimo Beograd. Aujourd'hui, il gère les réseaux sociaux du mouvement. 80 000 fidèles sur Facebook, 20 000 sur Twitter. Lui aussi est inscrit sur la liste des candidats aux municipales.
Si on m'avait demandé il y a quelque temps si je serais candidat sur cette liste et m'engagerais en politique, j'aurais répondu non. J'y aurais pas cru. Et pourtant, il faut bien dire qu'il y a une certaine dose d'excitation. Après tout, les élections, c'est comme un match. Mais il y a également une dose de frustration, parce que ce match, en fait, il n'est pas juste. On n'a pas les mêmes chances que le parti au pouvoir, on n'a aucun accès aux médias, et on reçoit tous les jours des menaces et pressions de toutes sortes.
Des pressions multiples, de la part des médias dominants, tout d'abord, qui ont dressé un véritable cordon sanitaire entre le parti au pouvoir et l'opposition, et qui assimilent le mouvement citoyen à un groupe de mercenaires financé par le milliardaire américano-hongrois George Soros. Des pressions des groupuscules extrémistes et d'anciens fonctionnaires de la police, ensuite, qui menacent régulièrement les membres de Nedavimo Beograd en pleine rue, au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Pression de la justice, enfin, et une bonne vingtaine de procès intentés contre le jeune parti pour avoir bloqué la circulation en ville ou collé des affiches au mur. Dans ces conditions, est-il seulement possible de mener à bien une campagne électorale?
On travaille avant tout sur le terrain avec les citoyens. On parle avec eux dans les communautés locales, sur le terrain, mais aussi sur Internet et dans les médias sociaux. On essaie de toucher les gens de cette façon. Mais bien sûr, c'est assez limité parce qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui utilisent ces canaux de communication.
Nedavimo Beograd n'a pas atteint le quorum et ne pourra donc pas élire le prochain maire. Mais même s'il était parvenu à entrer à l'Assemblée municipale, qu'aurait-il pu faire concrètement pour exiger plus de transparence, débrouiller l'enchevêtrement d'intérêts publics et privés à la mairie et enrayer les malversations et tripatouillages financiers du parti dominant? Igor Stitz est écrivain et politologue. Il enseigne actuellement à Belgrade, à la faculté des médias et de la communication.
L'initiative belgradoise est inspirée par l'initiative zagréboise, qui s'appelle Zagreb est à nous, qui a gagné 8% de vote. À Zagreb, ils arrivent à bloquer le mode de fonctionnement d'un maire assez corrompu. Ils arrivent à alerter le public et les médias sur ce qui se passe. Ça, c'est très bien. Mais vous imaginez aussi qu'avec 4 élus, on ne peut pas faire grand-chose.
Dans les Balkans, la gauche est en perpétuelle naissance, dit-on. En attendant, les lendemains qui chantent, la Patco mobile ou voiture canard, une vieille R4 jaune ornée d'un gros bec orange, a repris du service. K1KA, elle sillonne de nouveau les rues de Belgrade. Les automobilistes lui laissent gentiment la priorité, les passants la saluent ou la prennent en photo. De nouvelles manifestations sont prévues, ce 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, avant une autre mobilisation pour protester contre une expropriation forcée illégale.
Retour maintenant sur les élections de dimanche en Italie qui ont vu la victoire des partis anti-système ou eurosceptiques. Le parti démocrate de centre-gauche au pouvoir est lui balayé et devrait perdre près de 2/3 de ses députés. Alors un tel basculement électoral d'un des principaux membres fondateurs de l'Union européenne n'est évidemment pas sans conséquences sur l'ensemble de l'Europe. Une Europe où l'euroscepticisme se renforce et où la gauche modérée connaît un recul sans précédent. On fait le point avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors Daniel, ces élections italiennes ont vraiment de quoi faire trembler l'Europe ?
Elles constituent effectivement un bouleversement sans précédent. 54% de voix au total se sont portées sur des candidats eurosceptiques, voire europhobes, qui rejettent au minimum le fonctionnement actuel de l'Union européenne et sont résolument hostiles à toute intégration supplémentaire en tout cas.
Il s'agit bien là d'un nouveau bouleversement politique en Europe.
C'est vrai, mais ni la recomposition politique française autour du centre d'Emmanuel Macron, ni l'apparition du quadripartisme en Espagne n'ont impliqué un désengagement européen, au contraire même. En Allemagne, la constitution d'une force eurosceptique de 90 députés n'a pas empêché la reconduction d'une grande coalition pro-européenne. Mais il est vrai que des pays de taille plus réduite ont vu récemment arriver au pouvoir des forces, sinon eurosceptiques, du moins euro-méfiantes ou euro-distantes. Il en est ainsi de l'Autriche, désormais dirigée par une coalition droite-extrême droite. Même phénomène en République tchèque, où le nouveau président du gouvernement Andrej Babiš est qualifié de libéral populiste et surnommé le Trump tchèque.
Quel est désormais le poids des eurosceptiques dans l'Union ?
Si l'on suppose que l'Italie entre prochainement dans le club des gouvernements eurosceptiques et que l'on ne tient plus compte du Royaume-Uni, dont le Brexit a en quelque sorte accompli l'euroscepticisme, 6 pays sont actuellement susceptibles de contrer toute velléité de renforcement de l'Union. Outre les Italiens, les Autrichiens et les Tchèques, il faut y compter des pays gouvernés par une droite nationale dure comme la Pologne et la Hongrie, ainsi que la Slovaquie du Premier ministre Robert Fico, qui, malgré sa couleur social-démocrate, est taxée de populisme et s'est allié à l'extrême droite. Certes, ces 6 pays ne pèsent au Conseil européen que 97 voix sur un total de 323, hors Royaume-Uni, mais ils disposent désormais de la minorité de blocage.
Après la défaite du centre-gauche italien, qu'en est-il de la gauche modérée en Europe, Daniel ?
La situation de la gauche de gouvernement s'est profondément dégradée depuis 2 ans. En décembre 2015, j'avais comptabilisé 12 chefs de gouvernement sur 28 issus du centre-gauche. Après les changements de majorité en France, en République tchèque, en Autriche, en Croatie, en Lituanie et désormais en Italie, on ne compte plus que 6 premiers ministres à gauche en Europe. Et ces derniers ne gouvernent plus que 12% de la population de l'Union, alors que leurs 12 prédécesseurs en gouvernaient 42%. Sans compter que dans les pays qui restent à gauche, il y a des coalitions avec le centre-droit ou la droite, comme en Slovaquie, en Slovénie ou en Roumanie. De plus, le recul de la gauche modérée prend figure d'effondrement si l'on considère la baisse des forces de ces partis.
Que voulez-vous dire par là ?
Si vous prenez le nombre de députés socialistes ou sociaux-démocrates, vous constatez qu'ils ont diminué à l'occasion des derniers scrutins de 85% en France, de 76% aux Pays-Bas, de 70% en République tchèque, de 64% en Italie, de 55% en Lituanie. Même en Espagne ou en Allemagne, où ils sauvent les meubles, les partis de centre-gauche comptent 20% d'élus en moins.
La gauche ne serait donc plus une réponse à la poussée du populisme ?
Non, du moins dans ses composantes traditionnelles et modérées. La social-démocratie semble désormais condamnée à s'allier au centre-droit, comme en Allemagne, ou avec une gauche plus contestataire, comme au Portugal. Notons, pour terminer une petite ironie de l'histoire, le seul pays où un parti de gauche, même s'il demeure dans l'opposition, a récemment amélioré sa représentation au sein d'un parlement en Europe est le Royaume-Uni, puisque les travaillistes y ont gagné 30 députés en 2017. Certains pourront y voir une raison de plus de regretter le Brexit.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info.
À bientôt Laurent.
Et c'est Françoise Grelot qui a réalisé et mis en onde cette édition Accent d'Europe, à retrouver sur rfi.fr à la page émission et sur votre téléphone portable avec l'appli Pure Radio. À demain dès 12h40 en universel.